D'abord, c'est une joie de pouvoir vous retrouver donc ce jour. Et j'aimerais donc, comme vous l'avez entendu, commenter cette lecture qui a été proposée dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. Je vous transmets aussi les salutations de la fédération d'église que je représente à travers le réseau FEF, dont on m'a confié donc la présidence. Et voilà, je vous souhaite de la part de ce comité de riches bénédictions dans votre marche avec le Seigneur dans le développement de vos églises aussi. Alors j'aimerais donc donner quelques réflexions sur cet épître de Jean. C'est vrai que j'ai choisi ce texte parce que il m'a parlé de manière spéciale ces derniers jours, ce texte de l'évangile, de l'épître de Jean. Vous allez voir ensemble, on verra donc deux grands thèmes se ressortent de cette lecture. D'une part, la communion avec Dieu, et d'autre part, la communion avec nos frères et sœurs. Alors, je ne sais pas ce que le mot « communion » pour vous évoque. Je ne sais pas si ça a un sens, hein. C'est vrai que c'est un mot très courant, en tout cas dans la langue du Nouveau Testament. Nous, dans la langue française, bon, le mot « communion », c'est plutôt un mot très religieux, n'est-ce pas ? C'est un mot qui renvoie... Moi, quand j'étais enfant, comme beaucoup en France, j'allais... à l'Église catholique, la communion, pour moi, c'était à la fois la grande fête que les enfants vivaient à l'âge de 12 ans. Moi, je l'ai vécu un petit peu avant, parce qu'on faisait ensemble avec ma sœur. Donc, à 10 ans et demi, je l'ai faite. C'était l'occasion de faire la fête et de recevoir comme cadeau une montre. Alors, c'était un grand événement dans la vie, quand j'étais d'un enfant. Et le mot communion, il évoquait aussi la communion un peu magique qu'il y avait lorsque le prêtre bénissait cette espèce d'hostie. Et puis, voilà, ce que voulait dire pour moi le mot communion. Alors, je ne sais pas pour vous ce que ça veut dire, ce mot communion, mais ça n'avait pour moi aucun sens par rapport à ce que la Bible dit réellement de ce mot. Alors, ce que ce mot signifie, comme on va le voir ensemble, ça va beaucoup plus loin qu'un rituel religieux ou que la pratique du pain et du vin, de ce repas symbolique que Jésus nous a laissé. La communion, c'est quelque chose qui nous fait entrer dans une relation vivante. Alors c'est vrai que dans le monde, on utilise parfois le mot communion. J'entendais des musiciens qui, lors d'un concert, disaient qu'ils avaient vécu un moment de communion. Ils n'étaient pas spécialement chrétiens, mais il y avait quelque chose dans l'air qui faisait que tout le monde était porté par cette musique et ils étaient comme, ils vivaient quelque chose, une sorte d'osmose ensemble. Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu on se rapproche un peu du sens biblique. Qu'est-ce que veut dire la communion ? Alors, l'important, ce n'est pas tellement de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot. Ce qui est important de comprendre, c'est plutôt comment on accède à cette communion et comment on peut entrer en relation, tant avec Dieu que dans une communion plus profonde avec nos frères et sœurs. Alors, c'est vrai qu'on peut être assis les uns à côté des autres, chanter des chants ensemble, sans forcément être en communion. Notre communauté peut être aussi... connaître d'autres églises sans pour cela être en communion. Et qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les bases de cette communion ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, la première partie de cette lecture, on pourrait dire que ce sont les quatre premiers versets où l'apôtre Jean s'arrête en quelque sorte dans le parcours de son chemin pour regarder ce qu'il a vécu, ce qui a bouleversé sa vie de manière extraordinaire, et il en fait une sorte de récapitulatif, en quelques mots, des phrases, une phrase un peu compliquée qu'il rédige pour parler de ce qui a complètement bouleversé sa vie, et non seulement sa propre vie, mais ce qui a bouleversé l'histoire de ce monde. Pour Jean, c'est évident, comme pour tous les auteurs de la Bible, que le grand événement de l'histoire de ce monde, c'est lorsque la vie, un jour, s'est manifestée dans ce monde, à travers Jésus. L'apôtre Jean disait dans son évangile, cette fois, non pas dans l'épître, « Nous avons tous contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. » Il est en émerveillement de cet événement qui s'est passé dans l'histoire, lorsque la lumière de la vie, lorsque la vie s'est incarné en quelque sorte en une personne pour apporter justement cette vie dans ce monde enténébré, ce monde de mort. Alors Jean, dans les premiers versets, nous parle de ce qui l'a bouleversé complètement. Et il explique que cette vie qui a toujours été auprès de Dieu, qui est la véritable vie, un jour, elle est venue dans ce monde. Alors je reprends quelques extraits. Jean écrit « Ce qui était dès le commencement ». Ce que nous avons vu. Il fait un bond en avant, là, entre les deux expressions. Ce qui était dès le commencement renvoie à l'origine, renvoie aussi au premier verset de la Genèse, au commencement, Dieu créa. Mais renvoie aussi au premier mot que Jean lui-même a écrit dans son évangile. Au commencement était le Logos, le Verbe, la parole de Dieu. Ce Verbe qui s'est fait chair, ce Verbe qui est venu jusqu'à nous. Eh bien, il dit, au commencement, il était là. Et il dit dans son épître, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu. Alors c'est intéressant, ce qui est au commencement, comme il va dire après, c'est une parole. Il y a un jeu de mots, effectivement, c'est le logos de Dieu, c'est celui qui exprime Dieu. Eh bien, ce qui exprime Dieu était là au commencement. Et il dit, nous l'avons entendu. Nous avons capté ce son, cette voix. Nous avons capté ce langage que Dieu a exprimé à travers son Fils. Tous ne l'ont pas compris, hein, n'est-ce pas ? Parfois, il y a des ondes radio, et si on n'a pas les appareils pour les capter, on ignore complètement. On passe allègrement, sans du tout même soupçonner que circulent toutes sortes d'informations, n'est-ce pas, dans l'air. Bon, il y en a peut-être qui connaissent bien là, tout ce qui est la logique des ondes. Eh bien, c'est vrai que certains diraient, mais moi je ne crois pas aux ondes, je ne vois aucune onde là autour de moi, je ne les touche pas. Et pourtant, avec certains, en fabriquant des récepteurs, on arrive à capter ces ondes, à reconstituer des sons et à reconstituer des images, n'est-ce pas ? Ou alors des signaux Wi-Fi, on arrive à reconstituer, mais on ne les voit pas. Il faut, pour les capter, des instruments qui permettent de le faire. Eh bien, Jean, lui, dit qu'il a entendu. Un langage. Il a été tout à coup réceptif à quelque chose qui vient de Dieu et il a compris ce que c'était. Il a reçu ce langage. Alors Jean dit ce qui était de commencement. Et il fait un saut dans le temps, ce que nous avons entendu. Maintenant il parle en tant que témoin. Ce que nous avons vu de nos yeux. Pas simplement vu, il ajoute ensuite ce que nous avons contemplé. Nous avons admiré. Celui qui est venu. Alors, nous l'avons contemplé, ce que nos mains ont touché, la NBS traduit ce que nos mains ont palpé. C'est le même verbe qui est utilisé quand Jésus dit, là, touchez, palpez ma main, voyez, vous allez voir s'il y a vraiment les cicatrices. Quand Jésus dit à Jésus, touche à Thomas, touche avec tes mains, tu vas voir ce que c'est. Eh bien là, Jean dit, nous l'avons touché de près, nous avons vu qui il est. Et ensuite, il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous m'avons touché concernant la parole de la vie. Et il fait une parenthèse pour dire, cette parole de la vie, eh bien, on peut l'appeler aussi la vie. La vie a été manifestée, verset 2. Cette vie s'est fait connaître. Cette vie qui, de toute éternité, existait, elle s'est rendue visible. Accessible à l'être humain. C'est là le grand message que l'apôtre Jean va porter. C'est là le grand message de la parole de Dieu même. C'est que la vie qui est en Dieu, elle vient atteindre les ténèbres et l'obscurité de ce monde. Alors il dit, bien, cette vie s'est manifestée. Et verset 3, il reprend ce que nous avons vu et entendu pour dire à quel point ça l'a touché, affecté. Il dit, nous en rendons témoignage, nous vous l'annonçons. Et dans quel but nous annonce-t-il cela, verset 3 ? Nous vous annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Ce que Jean veut faire passer, c'est qu'il transmet ce qu'il a reçu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a bouleversé dans sa propre vie, il l'échange avec ses auditeurs. Pour que ses auditeurs puissent entrer, et c'est là où la première fois que le mot communion apparaît, pour qu'il puisse y avoir une communion qui s'établisse entre l'auteur de cette épître, à l'époque, avec ses auditeurs, qu'il puisse y avoir une relation qui s'établisse. Mais il précise tout de suite de quel type de communion il s'agit. Pas simplement une communion de fraternité, mais une communion qui est d'un autre ordre, qui désormais est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on peut en parler pendant longtemps, mais l'important, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tellement de faire des théories sur ça, c'est de l'expérimenter, cette communion, d'entrer dans cette relation avec Dieu, de vivre cette relation avec Dieu. Parce que la vie ici, ce sont tous des mots qui décrivent à la fois le logos, la vie, Dieu, etc., ça désigne la réalité même de Dieu, qui devient accessible à l'être humain. Et Jean dit, nous vous annonçons ces choses, pour que vous soyez en communion avec nous, mais de cette communion qui est avec le Père et avec le Fils. Et il écrit cela, verset 4, pour que, dit-il, notre joie soit parfaite, soit complète. Comme si sa joie n'était pas complète, si les personnes qu'il a à cœur ne sont pas dans la communion, ne sont pas en relation tant avec Dieu qu'en relation avec lui. Et je pense que plus on avance avec Dieu, dans une relation authentique avec Dieu, plus on a à cœur de ce que les autres personnes autour de nous qui se nomment chrétiennes puissent vivre cette relation aussi avec le Seigneur. Parce qu'on a comme le sentiment qu'on a le bonheur, le privilège d'avoir cette relation avec Dieu, mais que cette relation avec Dieu nous presse en quelque sorte à ce que d'autres aussi puissent entrer dans cette réalité. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous presse, dans cette relation avec lui, mais aussi dans cette relation avec notre prochain. Alors après, il va être plus précis, au verset 5, pour nous dire que, et on arrive à la deuxième partie de cet exposé, de cette lecture, maintenant, après avoir dit que ce logos, la vie, cette vie était manifestée, nous vous l'annonçons, eh bien, il va reformuler les choses. Pour dire ce message que nous annonçons, ce message de la communion avec Dieu, eh bien, il va changer légèrement ses mots pour dire, verset 5, le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune ténèbre en lui. En voulant dire que la vie qui s'est manifestée, qui nous appelle à cette relation avec lui, c'est la vie même de Dieu, de la lumière de Dieu. Ce sont des mots, je ne sais pas comment, ça évoque aussi pour vous ce mot « lumière ». Jean dit que ce que nous vous annonçons, le message essentiel que nous avons à vous annoncer, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors, le mot « lumière », je ne sais pas là aussi, qu'est-ce que ça évoque pour nous, le mot « lumière », c'est vrai, c'est le contraire des ténèbres, n'est-ce pas ? La lumière, chez Jean, ça renvoie à la sainteté de Dieu, le contraire même du péché, le péché qui est la rupture d'avec Dieu, c'est le mal qui prolifère, c'est la mort aussi. Eh bien, la lumière, c'est l'opposé de tout cela. La lumière, c'est la sainteté de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la vie en quelque sorte. La lumière, ça évoque aussi chez Jean le contraire du mensonge. Ça évoque la vérité. Dieu est lui-même dans la vérité absolue. Il est lui-même la vérité. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. Eh bien, la nouvelle qu'il nous fait parvenir, l'apôtre Jean, tellement pressante pour en faire son sujet essentiel dans cet épître, le message que nous avons entendu, c'est que Dieu est lumière. Et pourquoi dit-il ça? C'est pour que nous puissions nous aussi entrer dans cette lumière et ne pas nous illusionner. Parce que le problème, quand on touche à cette réalité spirituelle, on peut se tromper. On peut se croire en communion avec Dieu, on peut se croire dans la lumière de Dieu, alors que notre vie est gagnée par les ténèbres et l'obscurité. On a besoin de quelque sorte de marqueur qui nous aide à prendre conscience que nous sommes dans l'obscurité ou les ténèbres. Un peu comme parfois Dieu nous a donné dans notre peau, je dirais comme des capteurs, n'est-ce pas, qui fait que quand on touche quelque chose, par exemple, de dangereux, de bouillant, ou un circuit électrique, tout de suite, il y a une réaction qui s'opère, on a envie de retirer sa main. Bon, sauf si c'est un circuit électrique très puissant, là, on n'a pas le temps d'enlever sa main. Là. Mais Dieu nous a donné la capacité, à travers les nerfs, de prendre conscience de certains dangers. Eh bien, l'apôtre Jean veut éveiller en nous une capacité à réagir par rapport à certaines choses pour que nous ne nous laissions pas entraîner dans les ténèbres. Parce que le propre des ténèbres, pour Jean, c'est qu'on ne s'en rend pas compte quand on marche dans les ténèbres. On ne le voit même pas. Le propre des ténèbres, c'est qu'on est pris dans une sorte d'égarement, d'endurcissement spirituel, et on ne le voit pas, absolument pas. Un peu comme une sorte de sommeil spirituel. C'est un peu comme le sommeil naturel, n'est-ce pas? Des fois, on peut s'endormir, mais sans même s'en rendre compte. Ça m'est arrivé, je me souviens un jour, à 5h du matin, là, j'avais passé une nuit blanche, j'étais sur l'autoroute là, à 130 ou 140 sur mon compteur, et je luttais contre le sommeil, et à un moment, mes yeux se sont fermés. Alors, j'ai rouvert les yeux peut-être deux secondes après, j'étais à quelques millimètres du bord, là. Ça m'a réveillé d'un coup, ça m'a donné un coup d'adrénaline, là, parce que j'ai senti que j'étais au bord d'un accident grave, là. Et finalement, ça m'a réveillé, je me suis aussi arrêté un peu après. Je me dis, c'était pas prudent de conduire quand on est trop fatigué, n'est-ce pas? Et vous savez combien, malheureusement, d'accidents ont lieu par des personnes qui s'endorment. Eh bien, spirituellement, c'est un peu pareil. Spirituellement, quand on s'endort, on ne prend pas conscience qu'on est en train de s'endormir, jusqu'au jour où... Eh bien, malheureusement, c'est trop tard, parce qu'on est confronté à un accident grave. Et là, l'apôtre Jean veut éveiller en nous notre capacité à comprendre ce qu'est la lumière, et ce que sont les ténèbres, afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais que nous marchions dans la lumière. Alors, c'est ce qu'il va dire après. Il va donner plusieurs critères. Alors, pour ça, il faudrait étudier toute cette épître pour comprendre les 5 grands critères que l'apôtre Jean met en avant, qu'il reprend une deuxième fois à partir du chapitre 3, mais il les énumère déjà dans les chapitres 1 et 2, ces 5 grands critères pour que nous sachions où nous en sommes, si nous marchons dans la lumière ou pas. Alors les 5 critères, vous les connaissez peut-être, c'est premièrement, quelle attitude j'ai par rapport au péché? Comment je vide ma relation avec le péché, encore faut-il comprendre ce que la Bible appelle péché, mais lorsque je suis dans la lumière, je dois être dans une attitude de rupture par rapport au péché, ou en tout cas d'honnêteté par rapport au péché, comme on va le voir, parce que c'est ce premier critère-là que je vais développer dans quelques instants. Le deuxième critère, que je n'aborde pas ici, peut-être Dieu voulant une prochaine fois, c'est le critère de garder ses commandements, de l'obéissance. Ça rejoint d'ailleurs la question du péché, mais il va développer sous un autre angle ce critère. Celui qui dit qu'il connaît Dieu et qu'il a relation avec Dieu, qui garde ses commandements, eh bien, c'est qu'il garde et qu'il marche vraiment dans cette lumière. Le troisième critère, il s'arrête sur l'un de ses commandements en particulier, c'est l'amour. Si nous aimons nos frères et sœurs, c'est que nous sommes dans la lumière. Si nous n'aimons pas nos frères et sœurs, c'est la preuve que nous avons pris une direction d'endurcissement et de voie ténébreuse. Le quatrième critère qu'il met en avant, c'est le critère du discernement, le discernement de la saine doctrine. Il dira, vous avez une onction qui vous enseigne toutes ces choses, eh bien, ne vous laissez pas prendre par ces mensonges qui circulent, par la voie de l'Antichrist, par ceux qui confessent que Jésus ne serait pas venu en tant qu'homme, eh bien vous, attachez-vous à cette parole. Et c'est ce critère-là qu'il met aussi en avant. Et l'autre critère qu'on pourrait mettre en avant aussi, mais qui récapitule un peu les autres, c'est l'idée de demeurer en lui, de marcher comme il a marché, qui revient aussi en partie. Je ne vais pas développer ces critères, je vais m'arrêter sur le premier critère que Jean a choisi pour mettre en avant dans le début du chapitre 1, dans tout le chapitre 1, mais aussi quand il reprend ces différents critères dans le chapitre 3, où il parle de la lutte contre le péché. Alors, lisons à partir du verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui », et on peut dire facilement, « Oui, moi je suis chrétien, moi j'aime Dieu, moi je suis dans la lumière. » Alors peut-être que nous, dans notre langage évangélique du XXIe siècle, on n'emploiera peut-être pas ces mots-là, mais voilà ce que ça signifie vraiment dans un langage biblique. Si nous disons, non seulement être chrétien, mais vivre en tant que chrétien, ou formuler autrement, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans une communion, sans une relation personnelle avec Dieu. Jésus dira « demeurez en moi », mais tout sarment qui ne demeure pas en moi, il l'arrache. Ou tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'arrache. Et ceux qui ne demeurent pas en moi, dit Jésus, il va les brûler. Comme le sarment qui ne veut pas vivre cette relation, ben, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 15 ? Il va un jour brûler tous ces sarments. Donc, ça n'est pas une option réservée à une élite de chrétiens qui devrait demeurer en Dieu ou être en communion avec Dieu. C'est pour tous les chrétiens. Et l'apôtre Jean dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais qu'en même temps, nous marchions dans les ténèbres, eh bien, il y a un problème. Il dit, nous mentons. Les mots sont forts. Nous sommes des menteurs, en quelque sorte. Nous nous trompons complètement. Nous mentons et, littéralement, nous ne faisons pas ou pratiquons pas. Le mot en grec, c'est vraiment faire quelque chose. Comme on fait des choses, nous ne faisons pas ou nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, mais qu'en parallèle, nous marchons ténèbres. Alors on me dirait, mais ça veut dire quoi, marcher dans les ténèbres ? Bien, c'est sûr que c'est une expression qui englobe beaucoup de choses, mais c'est ce qui va développer dans la suite. Marcher dans les ténèbres et ne pas être dans la lumière de Dieu, c'est d'abord tolérer très facilement le péché dans notre vie. C'est tolérer le mépris de nos frères et sœurs. C'est naître dans une attitude de désobéissance un peu récurrente dans notre relation avec Dieu. C'est aussi marcher dans des enseignements tordus, qui s'éloignent de la parole de Dieu. Alors si nous sommes dans les ténèbres, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous pouvons dire, oui, je suis en communion avec Dieu, mais si nous ne marchons pas dans la lumière, si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais, verset 7, et c'est extraordinaire ce verset, si au contraire, nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire si nous laissons happer par la grâce du Seigneur, nous laissons entraîner dans sa lumière, nous voulons, nous désirons marcher dans une certaine obéissance avec Dieu, une certaine rupture avec le mal, si nous marchons là dans la lumière, et on va voir tout à l'heure en particulier qu'est-ce que cela signifie, eh bien il nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Première chose qui découle d'une marche dans la lumière, c'est que nous sommes mutuellement, les uns les autres, en communion. Ce qui veut dire que la véritable communion dont parle la Bible, quand elle parle de communion fraternelle, telle que l'apôtre Jean le définit, ou telle que, par exemple, acte 2 le définit, en tout cas, là, ici, nous avons plus d'éléments dans 1 Jean, chapitre 1, être en communion les uns avec les autres, c'est quelque chose qui découle d'une relation personnelle avec Dieu. On ne peut pas vivre une authentique communion avec nos frères et sœurs, si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. On donne des fois cette image, vous savez, d'un cercle comme qui ressemble un peu à une roue, avec au centre une sorte de petit cercle aussi, et puis toutes sortes de rayons qui se dirigent vers le centre. Eh bien, plus nous nous approchons du centre, et en fait, plus nous allons nous approcher aussi des autres. Et si nous touchons le centre, alors nous sommes vraiment, nous touchons nos frères et sœurs. Mais tant que nous sommes un peu loin, écartés du centre, il y a une distance. Peut-être pas une distance qui nous sépare dans le sens où on peut faire des choses ensemble, mais il y a une distance spirituelle qui empêche des liens plus étroits de s'établir, des liens dans l'esprit, en Christ, de s'établir. Ces liens ne s'établissent que lorsque je touche le centre. Mais c'est vrai que c'est tout le défi après de la suite de cette épître, rester là au centre. Et parce qu'il y a comme des forces centrifuges, ou des forces plutôt, comment on les appelle, qui nous écartent, le contraire des forces centrifuges, est-ce qu'il y en a qui se rappellent bon, vous voyez ce que c'est l'inverse des forces centrifuges, qui nous écartent de plus en plus, qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. Mais par sa grâce, si nous marchons dans le centre de une relation avec lui, nous sommes en communion avec nos frères et sœurs. Et, chose encore plus surprenante, c'est là que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors certains diront, mais c'est bizarre, le sang de Jésus peut-être, moi c'est ce que je pensais au départ, je me disais, c'est étrange ce verset, parce qu'on aurait pu dire, le sang de Jésus nous purifie quand nous sommes loin, et que nous voulons revenir à Dieu, là oui, on peut être pardonné de nos fautes, c'est vrai, oui, mais là il parle d'une purification qui va loin, une purification qui nous purifie de toute faute et qui nous permet de rester dans la lumière, qui nous lave en quelque sorte de manière continuelle et permanente. Eh bien, cette purification-là, nous l'avons lorsque nous marchons dans la lumière. Dès que nous prenons des petites tangentes et que nous péchons, mais que nous le reconnaissons devant Dieu, eh bien, nous pouvons à nouveau être au bénéfice de cette purification et marcher dans la lumière de Dieu et marcher aussi, chose extraordinaire, en communion avec nos frères et sœurs. Alors, il va ensuite développer un tout petit peu plus cette idée de ce que signifie marcher dans les ténèbres ou par inversion, mieux comprendre ce que veut dire marcher dans la lumière. Alors, brièvement, quand on avance un peu dans ce verset, verset 8. « Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Le mot, c'est « nous nous égarons nous-mêmes ». Il utilise le verbe « planer hein, ». Voilà, comme les planètes, on a l'impression qu'il n'y a pas de repère, ça part complètement depuis la Terre, on regarde, on a l'impression que ça part dans tous les sens. C'est comme ça que disaient les Grecs quand on veut dire de quelqu'un qu'il est égaré. Jésus disait aux chefs religieux, vous êtes mais complètement dans l'erreur. Il dit, vous planez en grec, il leur dit, vous planez littéralement, parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, disait-il aux Sadducéens en particulier. Alors là, il dit, ben, nous aussi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous planons, nous sommes dans l'égarement, nous nous trompons nous-mêmes, nous nous illusionnons. Alors, dans quel sens nous... Je pense qu'il faut lier le verset 8 avec le verset 7. Ça veut dire, à mon avis, si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors que nous sommes, comme sous-entendu dans le verset 7, nous ne serions pas dans la lumière, que nous marcherions, au verset 6, dans les ténèbres, et que nous ne voulons pas reconnaître nos fautes, eh bien, nous nous trompons complètement. L'apôtre Jean, je le signale... ne veut pas encourager le péché. Quand il dit « si nous disons que nous n'avons pas de péché », il ne veut pas dire par là « nous resterons toujours complètement esclaves du péché ». Ce n'est pas la pensée, puisqu'il dit au chapitre 2, verset 1 « mes petits enfants, je vous écris, afin que vous ne péchiez pas ». Ou alors au chapitre 3, il dit « celui qui est la semence de Dieu en lui, il ne pratique pas le péché ». Mais quand il dit « si nous disons que nous n'avons pas de péché », je pense que c'est plutôt par rapport à ce qui est dit avant. C'est si nous refusons de reconnaître nos péchés. Si nous disons, moi, ah non, 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 mais moi, je n'ai pas péché. Moi, je suis dans la lumière, il n'y a pas de problème. Ça nous renvoie un petit peu à Adam et Ève, vous rappelez, quand ils ont péché. Le réflexe le plus naturel quand on pêche, c'est de dire, c'est de trouver des excuses, n'est-ce pas ? Oh, ben, c'est pas ma faute. Écoute, c'est la femme que tu as placée là, en plus. Hein. C'est même pas seulement la femme, mais c'est la femme que Dieu a placée là, à côté d'Adam, qui est fautive pour le péché. Et Ève a répondu, vous savez, oh ben c'est pas moi non plus, hein. C'est le serpent qui était là, qui m'a tenté. Et ainsi, on trouve toujours des prétextes. Moi, je suis allé visiter pendant plusieurs années des personnes dans des prisons, et je me souviens, j'étais marqué quand même hein, par le nombre de personnes qui me racontaient qu'elles étaient là de manière complètement injuste. Hein, je me souviens d'un monsieur... Lui, il était là vraiment de manière injuste parce qu'il dit, je suis là parce que j'ai violé une fille, mais il dit quand même, elle l'a vraiment cherché cette fille. Hein. Alors, il lui trouvait toutes sortes de prétextes. Alors, il y en a qui trouvent toutes sortes d'excuses hein, pour pouvoir dire, c'est pas ma faute finalement. Et c'est un peu dans cet état d'esprit où il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est-à-dire on ne veut pas reconnaître réellement son péché, nous nous trompons complètement, à s'entêter. Et on le sait, hein, dans la plupart des pays, je pense à notre pays, là, Jérôme Cahuzac, quand il était pris la main dans le sac, la première réaction, il a dit, vous vous rappelez, là, le ministre, « Ah mais moi j'ai rien fait, j'ai pas de compte en Suisse, j'ai pas ci, etc. » Puis finalement, il s'est avéré que c'était complètement faux. Il trompait les gens autour de lui. Eh bien, nous nous séduisons nous-mêmes si nous ne reconnaissons pas nos péchés, si nous refusons de les reconnaître. La vérité n'est pas en nous. Et le verset suivant nous dit, « Mais en revanche... » Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la bonne nouvelle du premier chapitre de Jean. C'est que si on reconnaît nos fautes, et c'est là le sens premier de marcher dans la lumière, ça n'est pas faire des exploits pour forcément vivre sans péché, mais c'est déjà la première étape, être capable de reconnaître lorsque nous avons péché et dire « oui ». Je reconnais. Reconnaître nos péchés, ce n'est pas forcément les exagérer. Il y en a qui se culpabilisent à outrance. Et le diable, qui est appelé l'accusateur des frères, cherche à nous enfoncer. Mais c'est les reconnaître à leur juste valeur. Et ce n'est pas non plus, comme on a tellement tendance à le faire, et comme le verset précédent le montrait, « Ah, mais moi, je n'ai rien fait. Ah non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est des autres. » Mais si nous reconnaissons nos péchés, Dieu, il est fidèle. C'est surprenant. Dieu est fidèle et juste. Fidèle parce qu'il nous aime. Et il est juste parce que, en Jésus-Christ, tout a été réglé. Jésus est la victime expiatoire qui a payé pour nos fautes. Eh bien, il est fidèle et juste pour nous pardonner, d'abord, et nous purifier de toute iniquité. Que Dieu nous donne cette capacité de pouvoir marcher dans la lumière. La première grande étape que nous avons vue pour marcher dans la lumière consiste à être vrai, à ne pas être hypocrite, à dire « oui, dans tel domaine, j'ai péché, je ne veux pas le cacher, je ne veux pas le camoufler. » Et à partir du moment où je le confesse, Dieu ne va pas m'enfoncer, comme le père du fils prodigue quand il est revenu, quand le fils est revenu, le père ne l'a pas accablé, ne l'a pas attendu avec un fouet ou un bâton, mais a couru vers lui. Et le fils n'a même pas eu le temps de dire tout ce qu'il avait préparé. Le père l'accueillait dans sa puissance de pardon et de compassion. Eh bien, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu nous accueille aussi et nous permet de repartir avec lui pour marcher à nouveau dans sa lumière, être en communion avec lui et aussi être en communion avec nos frères et sœurs. Prions ensemble. Seigneur, merci de cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir méditer sur ta parole. Aide-nous à la recevoir, comme dit l'apôtre Paul, non comme une parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. Aide-nous dans notre cœur à pouvoir recevoir ces paroles avec foi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce chemin dans la lumière, pour être en communion avec toi, être en communion avec nos frères et sœurs. Bénis ton Église ici, encourage-la et fortifie-la. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.